Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Et je vous invite à ouvrir le livre que nous sommes appelés à ne quelque part jamais fermer. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53, les versets 3 à 10. Oh, je lirai le verset 2, comme ça on sait de qui on parle. 53, 2 à 10. Il s'est levé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il était retranché de la terre des vivants à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints? On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence, et qu'il n'y ait pas en lui de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Jusqu'ici, la première lecture. Et la deuxième, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8. Nous lirons les versets 18 à 23. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance. Cette même création sera libérée de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Sans antibiotiques, bien des maladies ne peuvent être guéries. Et sans le Saint-Esprit, impossible d'être guéri de notre cécité spirituelle. Nous comptons donc sur son œuvre aujourd'hui encore. Il est dit dans Ecclésiaste 7, 14, « Au jour du bonheur, jouis du bonheur, et au jour du malheur, réfléchis. » Nous avons commencé une petite série de prédications intitulée « Réflexion en ce temps de coronavirus ». Et nous arrivons à notre cinquième et dernière prédication aujourd'hui. En ce temps troublé par une médiatisation et politisation d'une maladie contagieuse, nous sommes confrontés à différentes réflexions de fond. Nous avons déjà parlé de la question de la peur, les craintes que nous rencontrons dans cette situation. Peur de tomber malade, peur d'être empoisonné, peur de perdre son travail, peur de faire faux, enfin... Dès que la crainte d'autre chose que Dieu guide notre vie, nous devrions avoir une alarme qui s'allume. Nous avons vu cela lors de la première prédication sur la crainte. Nous avons déjà parlé aussi de l'obéissance. des structures d'autorité que Dieu a mises en place et avons clairement compris que la désobéissance n'est jamais une bonne motivation. C'est uniquement l'obéissance qui doit nous motiver à agir et parfois à l'autorité supérieure. Nous avons réfléchi à la direction de notre vie, ce qui nous guide, ce qui guide nos décisions, soit notre identité, nos références, notre valeur ancrée dans la parole de Dieu, nos priorités modelées par la mission de glorifier Dieu qu'il nous confie. Nous avons aussi pris le temps de mieux comprendre ce que signifiait l'unité. Quel en est le fondement? Comment vivent les différences dans l'unité et les conséquences de l'unité? Et aujourd'hui, pour terminer cette série, nous allons parler de la souffrance. Car cette situation de coronavirus nous amène à réfléchir à ce sujet tout naturellement. La souffrance de ceux qui sont malades, de ceux qui perdent un être cher, de ceux qui sont mis de côté, de ceux qui ne sont pas compris, de ceux qui travaillent plus que ce qu'ils ne peuvent, de ceux qui perdent des amis, de ceux qui sont pris dans des conflits, de ceux qui ne savent plus que faire, de ceux qui sont isolés. Des souffrances physiques, des souffrances psychiques, des souffrances morales, sociales, spirituelles. La réflexion sur la souffrance nous amène à des questions sur Dieu, sur nous, sur ce que nous devons et pouvons supporter, sur la manière d'y faire face, sur comment accompagner ceux qui vivent les souffrances, sur les souffrances insupportables, voire même les souffrances éternelles. Et je peux dire que dans une certaine mesure, préparer cette prédication a été une forme de souffrance, parce que c'est un sujet gigantesque. Alors nous ne pourrons pas traiter tous les éléments de ce sujet, évidemment, ce matin, liés à la souffrance. Et j'ai arbitrairement choisi trois éléments qui me semblent faire partie des bases. Premier élément, c'est comment nous aider à comprendre que selon la Bible, la souffrance n'est pas une surprise et qu'elle croisera le chemin de chacun. Deuxièmement, comment réfléchir à la souffrance tout en continuant à faire confiance au Dieu bon et tout puissant. Et aussi comment nous aider à faire face à la souffrance. Alors je ne suis vraiment pas un spécialiste. En fait, j'aurais envie de m'asseoir avec vous, à côté de vous, pour écouter ce matin. Je ne vais donc que vous partager quelques éléments d'un pèlerin qui doit faire face à des souffrances plus ou moins profondes, plus ou moins douloureuses, plus ou moins longues, plus ou moins présentes. Et j'aimerais commencer par vous donner simplement déjà maintenant une pensée assez fournie sur le sujet, et je vous présente ensuite le menu et nous entrons dans les différentes pistes de réponse aux questions que je viens de mentionner. Alors, première réflexion qui est assez dense, que je vous donne maintenant, comme vous êtes encore réveillé, je peux vous la donner, et puis donc ça peut accompagner tout ce que nous allons voir par la suite. Nous ne sommes pas appelés à maîtriser ou avoir le contrôle sur tout ce qui peut amener la souffrance. Personne en dehors de Dieu n'a ce pouvoir. Mais nous sommes appelés à faire face à la souffrance et à la prévenir quand c'est possible, à accompagner ceux qui souffrent, en cherchant et désirant l'apaisement, la diminution ou même la disparition des douleurs, ayant les regards fixés sur celui qui a souffert pour nous sauver de la souffrance éternelle. Le tout dans des relations paisibles, confiantes, dans le respect, l'amour et le don de soi, loin du mépris et de la manipulation. Voilà, c'est une pensée assez dense, il y a beaucoup de choses ici. Peut-être je vais vous le redire une fois, comme ça un peu ça en tête, puis ensuite on va dans toutes ces questions. Nous ne sommes pas appelés à maîtriser ou avoir le contrôle sur tout ce qui peut amener la souffrance. Personne en dehors de Dieu n'a ce pouvoir. Mais nous sommes appelés à faire face à la souffrance et la prévenir quand c'est possible, à accompagner ceux qui souffrent en cherchant et désirant l'apaisement, la diminution ou même la disparition des douleurs, ayant les regards fixés sur celui qui a souffert pour nous sauver de la souffrance éternelle. Le tout dans des relations paisibles, confiantes, dans le respect, l'amour et le don de soi, loin du mépris et de la manipulation. Voici donc le menu du jour. Le premier point sera la souffrance n'est pas une surprise actuellement. Deuxièmement, Dieu est touché par la souffrance. Et troisièmement, comment faire face à la souffrance? Donc la souffrance n'est pas une surprise actuellement comme premier point. Alors j'aimerais commencer par nous rappeler que lorsque Dieu a créé le monde, tout était bon. Il n'y avait pas de souffrance. Il n'y avait pas de mort, qui est l'aboutissement ultime de la souffrance. Genèse 1:31 nous dit « Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. » Dieu n'a pas créé la souffrance dans son plan créateur. Ça, c'est un élément qui doit être très clair dans nos têtes. Dans la création normale et originale de Dieu, il n'y a pas de souffrance. Dans la création originale et normale de Dieu, il n'y a pas de souffrance. Et on pourrait dire qu'il serait anormal d'y souffrir. Dans le monde normal créé par Dieu, il est anormal de souffrir. Okay? Et c'est ce paradis que chaque être humain recherche. Pourquoi? Parce que c'est son origine. En fait, sur vos cartes d'identité, on ne devrait pas mettre l'origine que vous avez actuellement, on devrait mettre Eden. C'est l'origine de chacun. C'est pour ça que nous recherchons cela, nous désirons cela. Mais voilà, la chute, la révolte de l'homme qui n'a pas voulu vivre la soumission et l'obéissance au bon Créateur, la transgression de la seule loi contraignante de manger de tout, sauf d'un arbre précis, le péché est entré dans le monde. Et comme le dit Olivier Favre dans Le Bon Fondement, je le cite, « Le péché a fondamentalement désorienté et souillé la création de Dieu, entraînant avec lui les conséquences pour l'humanité entière. » Et Dieu avait annoncé ces conséquences. Dans Genèse 2, 16 à 17, il était dit, l'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et l'homme en a mangé. Et c'est ainsi que la souffrance est entrée dans la création. La création est devenue anormale. Le monde est devenu anormal. Et dans ce contexte qui n'est plus normal, il est normal de souffrir et de mourir. Ça, c'est un élément important. La création est devenue anormale. Et dans ce contexte qui n'est plus normal, il est normal de souffrir et de mourir. Et si nous ne souffrons pas autant que nous le pourrions ou que nous le mériterions, c'est à cause de la grâce générale. En fait, il est anormal de ne pas souffrir dans le monde anormal après la chute. Ne pas souffrir, c'est une grâce. C'est une grâce de ne pas souffrir. Et ceux qui bénéficient de cette grâce ont la responsabilité de prendre soin de ceux qui, de façon normale, souffrent. Voilà la logique biblique. Et ce temps de coronavirus met en avant qu'on a tendance à se baser sur l'illusion que notre monde est normal et qu'il est anormal de souffrir. Ce n'est pas seulement dans ce temps de corona, c'était déjà avant. Simplement là, ça le relève encore un peu plus. Alors que la Bible, en nous parlant de la création parfaite de Dieu et de la chute de l'homme, nous enseigne qu'il est normal que la souffrance existe dans le monde devenu anormal depuis la chute. Il n'est pas normal de ne pas être malade. C'est une grâce de Dieu. C'est un cadeau. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La Bible n'enseigne pas que nous devons chercher la souffrance. Non, je dis simplement que l'existence de la souffrance n'est pas une surprise. Ce n'est pas quelque chose d'étonnant, d'anormal dans notre monde déchu. D'ailleurs, dans le cas où vous auriez peut-être oublié, omnibulé par une omniprésence du sujet, il n'y a pas que le coronavirus qui fait souffrir dans le monde. Il existe d'autres maladies et même des actions humaines qui ne font pas moins souffrir et mourir dans le monde actuellement. Si dans la Bible, la souffrance n'est pas une surprise, elle ne doit pas l'être pour nous non plus. Nous allons souffrir dans ce monde déchu. C'est normal dans ce monde anormal. De plus, dans ce monde qui a rejeté de Dieu, il est normal que celui qui veut vivre pour Dieu rejette aussi celui qui veut vivre pour lui. Ne pas être surpris nous permet de nous y préparer. nous permet de l'accepter, même si nous ne le cherchons et ne l'aimons pas. Dieu n'aime pas la souffrance. Dieu n'aime pas la souffrance. Il est d'ailleurs tellement concerné par cela qu'il entre lui-même dans la souffrance, dans cette conséquence de la chute, pour triompher de la souffrance. C'est d'ailleurs notre deuxième point. Dieu est touché par la souffrance. Quand on parle de souffrance, le monde crie au scandale. Le monde fait tout pour éviter la souffrance personnelle et la moindre douleur révolte. C'est pas juste. C'est pas normal. J'ai entendu tout ça. Le monde utilise la souffrance pour, malheureusement aussi, excuser le mal. Il a tant souffert. Vous ne pouvez pas lui en vouloir de voler ou même de tuer. Comprenez ? Sous-entendu, sa souffrance excuse son acte criminel. Le monde crie contre Dieu lorsqu'il souffre, parce que la souffrance est un révélateur. Un révélateur parce que celui qui souffre n'a plus de filtre. C'est alors que son cœur parle, un cœur terriblement rebelle face au Créateur s'il n'est pas régénéré. Voilà pourquoi la souffrance pousse beaucoup de monde à accuser Dieu en disant que s'il était bon et puissant, il n'y aurait pas de souffrance. Il n'y aurait pas de mal, il n'y aurait pas de choses difficiles, il n'y aurait pas de péché. En fait, pensez que la souffrance a sa source en Dieu, donc pensez que la souffrance a sa source en Dieu, c'est oublier que ce n'est pas Dieu qui pèche et qui fait le mal. Jamais. Ce n'est pas Dieu qui pèche ou qui fait le mal. Jamais. Non. Dieu est tellement concerné par la situation de souffrance dans laquelle l'homme s'est jeté qu'il a décidé d'y entrer. C'est ça sa bonté et sa puissance. Il a décidé d'y entrer et de la vaincre par sa propre conséquence. Il est mort pour vaincre la mort. Dieu est tellement concerné par la situation de souffrance dans laquelle l'homme s'est jeté qu'il a décidé d'y entrer et de la vaincre par sa propre conséquence. Puis afin que l'on comprenne que ce n'est pas un accident, ce n'est pas un coup de tête, Dieu a annoncé longtemps à l'avance ce qu'il allait faire afin que nous sachions que c'était quelque chose de prévu, de voulu, de désiré de sa part. Et nous avons lu le texte, et je vais le relire, dans Ésaïe, qui est écrit des centaines d'années avant la venue de Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que certains, lorsqu'on lit ce texte sans leur dire d'où il vient, ils croient que c'est du Nouveau Testament, qu'on est en train de parler de Jésus-Christ. Alors, ils ont raison quand ils disent qu'on parle de Jésus-Christ, mais c'est dans l'Ancien Testament, des centaines d'années avant que cela a été écrit. Vous pouvez relire avec moi Ésaïe 53, en vous rappelant cette notion que Dieu est tellement concerné par la situation de souffrance dans laquelle nous sommes, qu'il a décidé d'y entrer, d'y faire entrer son serviteur, qu'il est lui-même. Dans un autre texte d'Ésaïe, il est dit que Emmanuel, Dieu avec nous, celui qui est appelé le Dieu Tout-Puissant, viendra, naîtra d'une femme. Ésaïe 53, les versets 3 à 10. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité. Il s'est humilié. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qui était retranché de la terre des vivants à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints? On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu dans sa bouche de fraude. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. » Jésus est cet envoyé, le Messie, Christ. Hein, vous vous souvenez que le terme Messie, le terme Christ, c'est la même chose, simplement c'est dans une langue différente. Hein, Messie, c'est de l'hébreu, Christ, c'est du grec, et puis loin, c'est du français. Mais si je vous dis loin de Dieu, on a plus de peine à comprendre. Hein, mais c'est le Messie, c'est le Christ qui a porté sur lui nos souffrances, les souffrances que l'on aurait éternellement. Et en plus, en vivant ces souffrances dans notre monde, il comprend nos souffrances ici-bas que nous avons. Parce que personne n'a plus souffert que lui. N'oublions pas que Satan est le docteur de la souffrance. Le maître des maîtres de la douleur. Et il n'a pas épargné Jésus, Dieu homme. Il était sa cible principale. Parce que rappelez-vous que s'il arrivait à le vaincre, il deviendrait le maître de l'univers. Jésus n'a pas été épargné par la douleur. Pour ma part, je pense que la personne qui vient au deuxième rang dans les plus grandes souffrances est Job. Parce que Satan voulait gagner son pari contre Dieu. Il a tout mis en œuvre pour faire mentir Dieu. Job a dû souffrir ce que personne n'a souffert ici-bas, en dehors de Jésus-Christ. Et dans une complète incompréhension. Il n'y avait pas d'éléments qui démontraient pourquoi il souffrait. Cela me permet de parler brièvement des livres de sagesse de la Bible qui parlent de la souffrance. En fait, le livre des Proverbes parle de la souffrance consécutive à des actes coupables. C'est un petit peu dans le monde, on sème et on moissonne ce que l'on a semé. Ça, c'est les Proverbes. Hein? Donc, si je frappe quelqu'un, eh bien, je vais être jugé et je vais avoir des souffrances qui sont en lien avec ce que j'ai fait. Ou d'autres choses. Pour le livre d'Ecclésiaste, il indique que tous souffrent, mais que ce temps sur terre est court. Le livre des Psaumes nous fait entrer dans le dialogue avec Dieu de celui qui souffre. Beaucoup de psaumes sont des dialogues de personnes qui parlent à Dieu dans leur souffrance. Et un des plus forts, je dirais, c'est le 88, ou 88, s'il faut le traduire, qui est un psaume de quelqu'un qui souffre. Et jusqu'au bout du psaume, c'est de la souffrance. Et c'est peut-être ce que vous dites parfois lorsque vous êtes dans des grandes souffrances. Et le livre de Job nous permet de comprendre que la souffrance touche même les plus justes, les plus généreux, les meilleurs, les plus riches. Et Job a compris, en fin de compte, que ce n'est ni la richesse, ni la pauvreté, ni la santé, ni la souffrance qui est son trésor, mais son rédempteur. C'est son rédempteur, son trésor. Ce que Job voyait encore de manière voilée, nous le voyons de manière nette. Le mystère est levé, Jésus-Christ est venu. Il est le rédempteur qui a souffert l'abandon pour ceux qui croient en lui, qui ne souffriront jamais cet abandon. Jésus a été abandonné. Tous ceux qui sont en lui ne le seront jamais. C'est lui qui a souffert l'agonie du juste jugement que tous ceux qui croient en lui ne souffriront jamais. C'est lui qui a appris l'obéissance par la souffrance pour compatir à nos souffrances et afin que nous puissions nous identifier à lui. Dieu n'avait pas besoin de venir souffrir pour nous comprendre. Il est Dieu, il sait tout, il comprend tout. Mais nous avions besoin qu'il vienne pour que nous puissions nous identifier à lui et nous dire oui. Il me comprend, il est passé par là. Hébreux 2, 18 le souligne. Car du fait qu'il a souffert lui-même quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. En fait, l'œuvre de Christ est la promesse que celui qui est en Christ ne souffrira pas éternellement. L'œuvre de Christ est la promesse que celui qui est en Christ ne souffrira pas éternellement. Cela s'arrêtera au plus tard à la mort physique. Car ensuite, lors de la résurrection, c'est un corps de gloire qui ne souffrira plus jamais, qui nous sera donné. La souffrance pour l'enfant de Dieu, pour celui qui croit en Christ, aura une fin. Elle n'est pas éternelle. Parce que lors de la résurrection, c'est un corps de gloire qui ne souffrira jamais plus, qui nous sera donné. Le texte d'Apocalypse 21,4 est très fort. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri de douleur, car les premières choses ont disparu. Dieu est tellement touché par la souffrance de l'homme qu'il a choisi de devenir homme pour vivre la souffrance, vaincre la souffrance en souffrant pour l'éliminer pour l'éternité. Le Dieu de la Bible est le seul vrai Dieu. Il a annoncé la souffrance de son envoyé, qui est Dieu lui-même. Il est venu le vivre, et nous sommes en 2022 après Jésus-Christ. C'est une attente qui a été réalisée de manière historique. Et il reviendra, et entre-temps, il nous promet sa présence pour les temps de souffrance que nous vivons. Nous ne sommes pas seuls, jamais. Il se tient à nos côtés. Plusieurs connaissent le poème des pas dans le sable, hein, qui fait écho à Deutéronome 1, 31 et Matthieu 28, 20, qui m'a souvent encouragé. Je vais simplement vous le relire. Une nuit, j'ai eu un songe. J'ai rêvé que je marchais le long d'une plage en compagnie du Seigneur. Dans le ciel apparaissaient les uns après les autres toutes les scènes de ma vie. J'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'à chaque scène de ma vie, il y avait deux paires de traces sur le sable. L'une était la mienne, l'autre était celle du Seigneur. Ainsi nous marchions jusqu'à ce que les jours de ma vie aient défilé devant moi. Alors, je me suis arrêté, j'ai regardé en arrière et j'ai remarqué qu'en certains endroits, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes. Et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie, les jours des plus grandes angoisses, des plus grandes peurs et aussi des plus grandes douleurs. Je l'ai donc interrogé. Seigneur, tu m'as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie et j'ai accepté de vivre avec toi. Mais j'ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, il n'y avait qu'une seule trace. Je ne peux pas comprendre que tu m'aies laissé seul au moment où j'en avais le plus besoin. Et le Seigneur répondit, « Mon enfant, tu m'es tellement précieux. Je t'aime. Je ne t'aurais jamais abandonné, pas même une seule minute. Les jours où tu ne vois qu'une seule trace de pas sur le sable, ces jours d'épreuve et de souffrance, eh bien c'était moi qui te portais. » La bonté et la toute-puissance de Dieu l'a amené à venir vivre la souffrance pour nous délivrer de cette souffrance éternelle. Et il est à nos côtés dans ce pèlerinage qui nous mène à la patrie céleste. C'est parce que Dieu est bon qu'il a décidé de venir nous sauver de notre perdition que nous méritions. C'est parce que Dieu est tout-puissant qu'il a pu devenir homme, souffrir, mourir et ressusciter à la place de quiconque. Donc quand quelqu'un vous redit, « Mais si Dieu est bon et tout-puissant, il n'y aurait pas de souffrance. » Mais c'est parce que Dieu est bon qu'il a décidé de venir nous sauver dans notre perdition que nous méritions, dans laquelle l'homme s'est jeté. C'est pas Dieu qui a jeté l'homme dans la souffrance. C'est parce que Dieu est tout-puissant qu'il est devenu homme, qu'il a souffert, qu'il est mort et qu'il est ressuscité à la place de celui. Et c'est appuyé sur Jésus-Christ, notre héros, qui comprend nos souffrances et qui nous accompagne, que nous allons faire face à nos souffrances. C'est notre troisième point, comment faire face à la souffrance. Alors c'est un article de Ed Welch, qui a plus d'expérience que moi dans l'accompagnement de personnes souffrantes, qui m'a aidé sur ce point. Il donne un conseil très utile, c'est de réfléchir à la souffrance avant qu'elle n'arrive, afin qu'au moment difficile, ceux qui nous entourent puisse nous dire ce que nous pensons être bien de nous rappeler à ce moment-là. Et Ed Welch a remarqué que dans les moments difficiles, il est plus facile d'entendre ses propres paroles, même répétées par d'autres, plutôt que des paroles d'autres personnes. Voici donc un exemple de liste de choses que j'encourage à ceux qui m'entourent de me rappeler lorsque je souffre. Voilà, ça peut être, c'est une réalité, vous pouvez le faire, je souffre. Hein, et vous pouvez faire votre propre liste, c'est l'idée après de vous aider vous à faire la vôtre en fait. Bien, voici quelques éléments, et je m'appuie sur les conseils de Ed Welch. Je ne dois pas être surpris par la souffrance. Je ne dois pas être surpris par la souffrance. Nous vivons dans un monde anormal depuis la chute, et de plus Jésus a souffert et annoncé que nous allions souffrir pour notre foi. Il est dit dans 1 Pierre 4, 12, Bien-aimés, ne soyez pas surpris par la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme si vous arrivait quelque chose d'étrange. Pas être surpris. Deuxièmement, je veux vivre par la foi, voir l'invisible. Vivre par la foi, voir l'invisible. Une vue normale ne suffit pas. Mes yeux me diront que Dieu est lointain quand je serai dans ma souffrance, quand j'y suis. Qu'il est lointain et silencieux. La vérité est qu'il est proche. Invisible, mais proche. Il a un amour particulier pour ceux qui souffrent. Et je veux qu'on m'aide à développer une vision spirituelle, à chercher dans la Bible les promesses de Dieu, à prier pour que je me rappelle la vérité en demandant à Dieu de me réconforter. Selon le texte de 2 Corinthiens 4, 16 à 18, par exemple. Un texte que nous, enfin, pour ma part, je chéris dans les moments qui sont plus difficiles. Où il est dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées, et les invisibles sont éternelles. Troisièmement, la souffrance révélera ce qui se trouve réellement dans mon cœur. On a déjà vu tout à l'heure que lorsqu'il y a la souffrance, le filtre disparaît. Elle me mettra à l'épreuve, et je veux voir ma patience grandir, selon Jacques 1.3. Jacques 1.3 qui dit que « sachant que la mise à l'épreuve de notre foi produit la patience ». Quatrièmement, Dieu est Dieu et je ne le suis pas. Qu'on me rappelle que Dieu est Dieu et que je ne le suis pas. Je peux relire ce que Dieu dit à Job, dans Job 38 à 42. C'est intéressant quand même de voir comment Dieu répond à Job. Il ne lui donne pas une raison de ce qui lui est arrivé. Il lui dit qui il est. Donc que je puisse relire ces textes. Hein. Dieu est Dieu, je ne le suis pas. Et j'ose lui dire ce que je vis. C'est important, il est Dieu. Quand je vis des maux de tête assez violents d'ailleurs, j'ose lui dire, Seigneur, ôte-moi cette douleur insupportable. Et si tu la laisses pour l'instant, donne-moi la force de la supporter. J'ai mal et je souhaite une accalmie. Que tu peux donner, j'ai confiance, il peut le donner. Mais je sais que je suis dans ta main. Dieu est Dieu et je ne le suis pas. Cinquièmement, je veux confesser mes péchés comme je le fais lorsque je ne souffre pas. Je veux confesser mes péchés comme je le fais lorsque je ne souffre pas. Car ainsi je me souviendrai de l'Évangile et la souffrance ne deviendra pas une excuse pour pécher. Sixièmement, dans les Écritures, particulièrement Isaïe 39 à 53, je garde l'œil sur le serviteur souffrant. Il me comprend. Il me comprend. Et me permet aussi de mieux le comprendre. Que le Seigneur me fasse la grâce dans les souffrances de me dire, mais ça me permet d'encore mieux comprendre ce qu'il a vécu pour que je sois délivré des souffrances éternelles. Il me comprend. Car du fait qu'il a souffert lui-même quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Septièmement, je parle honnêtement et souvent au Seigneur dans la prière. Je veux parler honnêtement et souvent au Seigneur dans la prière. Parfois ce n'est qu'un gémissement ou quelqu'un me lit un psaume et je peux dire simplement Amen, même faiblement. Mais parlez à Dieu. Parlez à Dieu. Confiez-vous en lui en tout temps. Épanchez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge, psaume 62, verset 9. Il a dit au peuple d'Israël dans Osée, en fait, quand vous avez souffert, vous n'êtes pas venu vers moi. Vous avez gémi, mais vous n'êtes pas venu vers moi. Non, je veux aller vers Dieu, lui dire. N'hésitez pas à lui dire, lui parler, dire des mots de ce que vous vivez. Dites-le lui. Il ne va jamais vous dire, non, je n'ai pas le temps. Il va dire, viens, parle-moi. Tu as besoin de parler, tu as besoin de dire ce qui est au fond de ton cœur. Dites-le lui, et je veux vivre ça, que Dieu m'aide à le vivre. Huitièmement, je m'intéresse à ceux qui souffrent. Je m'intéresse à ceux qui souffrent. Je lis leurs livres, je les écoute, car je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul qui souffre dans ce monde, il y en a d'autres aussi. Et je veux être ému de compassion pour leur situation. tellement me rendre compte de ce qu'ils sont en train de vivre que des larmes, que ce soit des larmes physiques ou des larmes dans mon cœur, parce que ça m'étreint, que je puisse les avoir pour vivre cette, d'être ému de compassion. Neuvièmement, je regarde vers l'avenir car le meilleur est devant, même si entre-temps le pèlerinage est parfois difficile. C'est vrai. Mais je regarde vers l'avenir. Le meilleur est devant moi. On a vu tout à l'heure, les souffrances termineront un jour pour celui qui est en Christ. Pour celui qui n'est pas en Christ, elles ne termineront pas. Ça c'est clair. C'est pire après. C'est pour ça l'importance de venir à Christ, de se tourner vers lui et de saisir son salut. Et là, c'est le texte de Romains 8, 18 à 23 qu'on a lu tout à l'heure. Je lis juste le verset 18. Hein. « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent, même si c'est vrai que quand on est dans la souffrance, c'est long. » Faut pas minimiser ça. C'est vrai. C'est difficile. On veut pas dire que c'est rien. Non, c'est il faut même terriblement difficile. Et en regardant la gloire à venir pour l'éternité, par contre, cela devient plus petit, même à nos yeux. Dixièmement, et c'est un élément que je trouve important à souligner, si je suis encore là, même si je souffre, c'est que je suis utile dans la main de Dieu, même si je ne le vois pas et je ne le comprends pas. Si je suis encore là, si je suis encore vivant, je le dis souvent quand je donne un témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai dit à moi 5 fois, bon maintenant je crois que ça commence à augmenter, mais en tout cas il y en a 5, clairement 5 fois où j'aurais dû mourir clairement. Si je suis encore là, même si je souffre, c'est que je suis utile dans la main de Dieu. Même si je ne vois ou je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'il est dit, et ça c'est un texte aussi que je trouve tellement fort, hein, je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. C'est de beaucoup le meilleur, et je peux vous assurer que quand on est dans des temps de souffrance, ça c'est quelque chose qu'on pense réellement. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Si je suis encore là, c'est parce que Dieu veut et a un plan pour moi ici encore, et pour toi, pour chacun qui est encore vivant. Alors ce ne sont que des suggestions qui correspondent à l'enseignement biblique ici, et ces paroles sont à rappeler dans la compassion quand je souffre. Hein. Si vous voulez prendre ceci et me le rappeler quand je souffre, faites-le avec compassion. Ce ne sont pas des paroles de jugement si je ne les vis pas, mais des encouragements à revenir à ce que Dieu m'enseigne et que je veux vivre, qui sont des désirs que j'ai réellement dans mon cœur. Pour comprendre un peu cette notion de ces éléments qu'on prépare hein, pour ensuite les entendre dans les moments plus difficiles, voici une petite histoire. Un jeune garçon vivait dans un pays loin de sa famille parce qu'en fait, il avait perdu ses parents et son oncle, à la mort de ses parents, l'avait vendu à un couple pour qu'il puisse l'adopter. Et ce jeune garçon avait écrit 10 promesses de Dieu avec un engagement de sa part à vivre pour lui, en français, sur une petite feuille en français. Et il gardait précieusement ce papier. Et lorsqu'il était triste, malade ou qu'il souffrait, il demandait à ses nouveaux parents de lire ces textes. Ils ne comprenaient rien à ces mots, ces gens. Mais il se donnait de la peine de lire, de déchiffrer ces textes. Et l'enfant comprenait les mots qu'il lisait et cela le réconfortait. Plus encore que lorsque ses nouveaux parents lui parlaient dans cette nouvelle langue qu'il avait dû apprendre. Parce que c'était ses propres mots dans sa langue maternelle qui faisaient écho à son cœur qui avait été touché au moment où il l'avait écrit. Et quand il l'entendait, il était réconforté. Une liste de paroles à nous rappeler lors de nos souffrances peut avoir le même effet. Car nous savons ce qui était sur notre cœur lorsque nous l'avons rédigé. Donc n'hésitons pas à prendre du temps dans la prière et à rédiger ces choses qui sont disponibles pour nous ou pour ceux qui sont autour de nous pour autoriser, dire à mon épouse, à des amis, si je suis dans la souffrance, voilà, vous pouvez utiliser ça. Pas pour me juger si je ne le vis pas, mais pour m'aider à réfléchir et revenir à ces choses-là dont j'ai besoin. Vous savez, on ne réagit pas tous de la même manière à la souffrance, et une personne même ne réagira pas toujours la même chose, même à la même souffrance dans sa vie. C'est normal. Les psaumes, qui sont souvent des réactions à la souffrance, sont écrits parfois par la même personne, Et c'est des psaumes différents. C'est écrit par des personnes différentes aussi. Et pourtant, souvent la manière de s'exprimer les sujets abordés sont tellement différents. C'est normal. Cela signifie que chacun peut avoir sa propre réaction à la souffrance. Et ne pas dire « Oh, ça c'est faux et ça c'est juste ». Chacun a sa propre réaction face à la souffrance, différent des uns et des autres, et pourtant juste devant Dieu, tant qu'elle a le même point commun que tous les psaumes. Tous les psaumes ont un point commun. C'est un regard de la créature tourné vers le Dieu créateur. Tant qu'on a le regard de la créature tourné vers le Dieu créateur, chacun a sa manière de vivre la souffrance. Ne dites pas à quelqu'un qu'il la vit faussement. Il la vit différemment. C'est normal. Cette situation de coronavirus nous permet de comprendre que nous pouvons nous trouver dans la souffrance pour différentes raisons et qu'il est bon de s'y préparer. J'ai pas développé tous les sujets importants de la souffrance. Comment accompagner ceux qui souffrent? Il y a quelques clés, mais j'en ai donné peu encore. Comment comprendre et parler de la souffrance face aux moralistes, hein, ceux qui disent qu'on souffre forcément à cause de nos mauvaises actions? Ou comment faire face aux fatalistes? C'est ceux qui disent, c'est le destin. Voilà, il n'y a qu'à supporter. Waouh. Ou face aux matérialistes qui disent que c'est par hasard. Voilà. Ou face aux bouddhistes qui disent qu'on souffre parce qu'on a des désirs insatisfaits. Donc facile, on enlève tous les désirs, il n'y a plus de souffrance. Waouh. Comment répondre? Comment comprendre les sources de la souffrance comme la pauvreté, la guerre, les catastrophes naturelles? Oula, je commence à soulever des sujets. Le mal, d'où vient le mal? Pourquoi le mal? Oh là là, j'ai pas abordé tout ça. Vous comprenez que j'étais en souffrance pour préparer ces prières. Qu'est-ce que je vais vous dire? Bon, je vous conseille quand même deux livres qui peuvent vous aider, comme ça vous pouvez aller plus loin dans ce sujet. Un livre que je pense qui est fondamental, c'est « Jusque à quand ?» Réflexion sur le mal et la souffrance de Don Carson. Donc c'est pas un livre qu'on lit comme ça, comme un roman, hein. Il fait réfléchir. Mais il va toucher des points essentiels justement dans ces sujets-là. Donc « Jusque à quand ?» de Don Carson. Et le deuxième livre, « La souffrance, marcher avec Dieu à travers les épreuves et la douleur » de Timothy Keller. Deux livres qui sont vraiment, mais qui font réfléchir. Il y a aussi les livres de Ed Welch et David Paulison qui sont, alors la plus abordable souvent, qui sont très pastoraux, très pratiques. Et si vous avez besoin d'autres éléments, eh bien je vous en donne volontiers encore des références. Nous arrivons au bout de cette petite série intitulée « Réflexion en ce temps de coronavirus ». Alors je n'ai certes pas épuisé tous les sujets qu'on pourrait aborder. Mais il me semble que les cinq thèmes que nous avons vus sont importants. Le premier était la crainte. Que aucune peur ou crainte soit notre guide, sauf la crainte de Dieu. Deuxièmement, l'obéissance. Ayons toujours pour motivation l'obéissance, même si parfois elle se réfère à l'autorité supérieure. Troisièmement, la direction. Soyons conscients de quoi dépend notre identité. On avait vu ça ensemble. Donc là, notre identité, elle ne change pas suivant les décisions qu'on prend dans cette situation de coronavirus. Notre identité, elle est en Christ. Donc soyons conscients de quoi dépend notre identité et prenions des décisions basées sur notre référence ultime, nos valeurs ancrées dans la Bible et nos priorités modelées par la mission de glorifier Dieu. Donc ça, c'était le thème de la direction. Quatrième thème, c'était sur l'unité. Vivons et grandissons dans l'unité créée par Jésus-Christ, sachant vivre nos différences de manière à enrichir notre communion. Et cinquième sujet, la souffrance. Ne soyons pas surpris par la souffrance. Méditons sur la souffrance de Christ qui est venu la vivre et la vaincre en y faisant face et préparons-nous à la souffrance. Et pour terminer, j'aimerais vous lire une lettre ouverte aux chrétiens souffrants de David Paulison, qui a rejoint la Patrie Céleste l'année passée. Je vous lis simplement sa lettre et je terminerai par la prière. « Cher ami, quel mot puis-je te dire quand ta vie est dure et que tu souffres? Si nous étions face à face, je ne commencerais probablement pas du tout par des mots. Je voudrais que tu parles quand tu en es capable. Je veux te connaître, savoir ce que tu traverses, ce que tu vis, et comment tu vas ? Il serait probablement plus utile d'être simplement présent et de faire comprendre que les larmes, le chagrin et la confusion sont valables. De nombreux chrétiens sages ont fait remarquer que les conseillers de Job ont bien fait jusqu'à ce qu'ils ouvrent la bouche. Et je ne pense certainement pas qu'il existe un mot magique qui rendra tout meilleur. Mais quand le moment est venu de dire quelque chose, je pourrais dire ceci. Jésus est un ami très sympathique, un compagnon de souffrance et un sauveur. Il a parcouru un chemin difficile. Il a ressenti sa propre angoisse et sa douleur écrasante. Il comprend. Il a de la compassion pour vous. Par le réconfort de sa présence et de sa sympathie, il a l'intention de vous en faire sortir et de vous attirer à lui. Je vous encourage à aller vers lui et à lui parler. Il y a quelque chose dans notre capacité de trouver des mots pour exprimer ce que nous vivons qui fait une véritable différence. Un sage chrétien, il y a plusieurs siècles, a dit « Ouvrir son cœur à son ami, cela double nos joies et réduit de moitié nos peines. » J'ai constaté que c'était vrai. Partager une joie double vraiment la joie. Et bien sûr, partager un chagrin d'amour n'enlève jamais tout, mais il y a quelque chose dans le fait de parler à quelqu'un qui se soucie vraiment de vous, qui apaise vos blessures. Vous n'êtes pas seul. Les psaumes sont si pleins de chagrin et si pleins de foi, commencent souvent par donner simplement une voix à l'expérience de la souffrance. Ce faisant, il est important de noter qu'ils ne se contentent pas de pousser un cri de douleur. Ils crient vers le Dieu qui entend, qui se soucie, qui s'approche, qui aide. Nous pouvons parler à notre Dieu. Puissiez-vous crier vers notre Dieu. Il vous appelle son ami. Il se soucie profondément de toi. Il est notre sauveur. Fais-lui confiance. Il a parcouru cette route avant toi. Il promet de le faire avec toi. Et je pourrais ajouter une chose. La souffrance doit être traversée une étape à la fois. Soyez honnête. Ne prenez pas de raccourcis. Que la peine de chaque jour soit suffisante pour ce jour. Cherchez votre Père. Si tu le cherches, tu le trouveras. David, prions. Éternel notre Dieu, si ce matin nous avons effleuré ce sujet de la souffrance, tu nous as rendu conscients que c'est un sujet qui peut nous toucher profondément. Parce que c'est un sujet qui remue nos entrailles. C'est un sujet qui nous remet en question, c'est un sujet qui remet en question tout ce que nous pouvons parfois croire, penser. Éternel, nous voulons venir ce matin pour implorer ton aide dans nos douleurs, dans nos souffrances. Nous avons besoin de toi. J'aimerais te remercier, Père, parce que nous pouvons regarder en arrière dans nos vies et voir que tu ne nous as pas abandonnés dans nos souffrances, mais nous avons aussi besoin, dans l'instant présent, quand nous souffrons, de sentir ta présence, d'être rassurés, d'être encouragés. Et c'est vers toi que nous venons, parce que c'est toi qui peux le faire réellement. J'aimerais, Seigneur, te prier vraiment que tu nous aides à cheminer. C'est vrai que nous ne voulons pas être surpris par la souffrance. Elle existe réellement. Et nous avons ici, Seigneur, chacun qui l'a déjà touché, certains plus profondément que d'autres. Mais j'aimerais, Seigneur, te dire merci parce que cette souffrance ne nous éloigne pas de toi, au contraire. Lorsque tu touches nos cœurs et que tu nous permets de comprendre ton œuvre, eh bien nous nous rendons compte que c'est dans la souffrance que tu t'es rendu le plus proche de nous. Aide-nous, Seigneur, à faire face à la souffrance. Délivre-nous de nos souffrances, Père. Nous désirons vraiment que les douleurs, que les difficultés de sommeil, que la santé qui est touchée par des maladies puissent effectivement être guéries, être libérées de la souffrance. Et nous croyons que tu es ce Dieu qui a cette capacité. Et nous savons qu'un jour cela sera le cas, et nous savons aussi que tu peux même le faire avant. Si c'est ta volonté. Et Seigneur, nous te prions d'agir et que quel que soit ce que tu vas faire dans l'avenir, donne-nous, Seigneur, la confiance en toi et que la souffrance soit pour nous un lieu où nous pouvons être plus proches de toi. Garde-nous, Seigneur, guide-nous et donne-nous la force et la grâce dans les moments de difficulté. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.